Bon, on va parler de. Je voudrais vous poser deux, trois questions sur les instruments encore, et puis ensuite on ferait parler de la fin, là, de, en fait, de la fin. Pas de la fin, parce que la fin, on n'y est pas encore, heureusement.
Oui.
Mais je veux dire
Ah,
de la suite.
tu m'avais dit que tu voulais entendre parler de la genèse des groupes folkloriques
Oui,
toulousains,
non, mais
là.
juste avant, juste un peu avant, quelques questions sur les instruments. Quand vous étiez à l'Ouragan, quand même, peut-être que vous avez entendu parler d'autres instruments, même si vous ne les avez pas vus. Par exemple, la bouddègue.
Bon, la bouddègue, ce qui est amusant, c'est que c'était encore un Breton qui s'était intéressé le plus à la bouddègue, hein, puisque c'est mon ami
Charles,
Charles qui a fait le plus de recherches là-dessus. Des bouddègues, j'en ai entendu parler, mais je n'en ai pas vu et je n'ai pas eu de relation sur la bouddègue.
Oui, mais d'accord, mais
Tout,
quand vous étiez à
non,
l'Ouragan, vous en parlez? Est-ce qu'on en parle?
non, non, là j'avoue qu'on ne m'a jamais parlé de bouddègue dans le coin. Non, 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 non,
On ne
ça.
parlait pas d'amboise,
Non plus.
l'amboise,
Non,
les pifres, tout
les,
ça.
ah, les pifres, les, oui, les pifres et la pifraille. Non, à part dans les champs. Non, non, en réalité, le pifre, c'est l'ancêtre du hautbois, finalement.
Non, enfin, ça dépend des régions, mais enfin, vous pifrez
Ou le
normalement,
fifre.
c'est le fifre plutôt.
Oui, alors, non. Tous ces instruments, je te dis vraiment, là, sur les instruments de musique dans le secteur, je n'ai pas eu
Et le
de
tambour.
relation.
Il s'est joué le tambour.
Hein?
Il s'est
Le
joué le
tambour
tambour.
même pas, il n'y avait pas de tambour.
Il n'y a pas de.
Le village était trop petit, il n'y avait pas le tambour de ville seulement, tu
Ah,
vois là où j'étais.
et les balles.
Hein?
Et les
Ben,
balles.
les bals, c'était la guerre. Les bals, il n'y a eu que ce que j'ai organisé moi clandestinement. Je faisais la fête de l'école une fois par an, et puis après la fête, je les faisais danser avec le saxophone.
Et vous jouiez du saxo?
Ah, je jouais du saxophone aussi, oui. Et alors, évidemment, on faisait les quelques danses anciennes et quelques danses modernes.
Qu'est-ce que c'est que vous faisiez comme danse moderne?
À l'époque où on faisait des tangos, des valses, des java, c'était les grandes
Tango, valse, java.
valses java, passo doble,
Foxtrot?
et le foxtrot. Attendez, qu'est-ce que c'est? Le foxtrot, j'ai appris à danser le foxtrot d'ailleurs sur un air que je c'était Adieu Venise Provençale, oui, Adieu Venise Provençale. C'est là-dessus que nous dansions le foxtrot, tu vois.
J'ai eu aussi de la flûte, vous m'avez dit, pour le bal.
Ah, du pipeau. Ah
Du
oui, mais
pipeau, je
alors
veux
le
dire, du
pipeau, je
pipeau.
jouais le pipeau, là, c'était pour danser les danses, le quadrille et les choses comme ça que je savais mieux sur le pipeau que.
Comment ils le disaient les gens en occitan, le pipeau? Comment ils disaient une
Ah, la
flûtette?
flûte, la
La
flûte.
flûte,
Oui,
la flûte,
la
la
flûte.
flûtette.
C'est pour ça que d'ailleurs, après, j'ai créé les
Et
scandettos
t'as
et la
la flûte,
flûte.
ouais,
Hein,
ouais.
puisque d'ailleurs, ce n'est pas moi qui les ai baptisés, c'est Ismaël Girard, le
Ah
brave
bon?
Ismaël Girard. Et qui m'avait demandé de faire partie de l'émission Gascogne qu'il avait mis sur pied à la Libération, et où il était content d'avoir une flûte à air. Parce que, à côté de la flûte à trois trous, qui est le galoubet que l'on trouve dans toutes les Pyrénées, il y avait quand même la flûte des Sestraouts et la flûte des Nautraouts. J'avoue que j'en ai beaucoup entendu parler, la flûte des Nautraouts,
À
mais.
l'Ouragan, vous en avez entendu parler?
Non, 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 nous en avons beaucoup parlé avec Ismaël Girard à
Ah oui,
l'époque,
d'accord, oui.
oui. Mais je ne vois pas à quel genre de flûte ça correspondait. Pourtant, et dans toutes les relations qu'il avait sur les Landes, on parlait souvent de la flûte des Nautraouts.
Nous, on a entendu parler aussi de flûte à 9 trous, 7 trous,
Oui, bon,
8
il est
trous.
évident que enfin, une autre fois quand tu reviendras, j'espère pouvoir te montrer. Tous les pipeaux que j'ai du monde entier, on en trouve évidemment avec tout un tas de trous. D'ailleurs, et quand on parle de flûte à neuf trous, souvent c'était des flûtes où les deux derniers trous ne servaient pas du
Oui,
tout.
c'était des
Hein,
trous
et
d'accord,
c'était
quoi,
des
très
trous
bien.
d'accord. Oui.
Ouais, voilà pour les donc pour les instruments, quoi, il n'y avait pas de.
Non, pour les instruments, j'avoue
Et le
que.
bras ou la dourne, les instruments de charivari, vous n'avez jamais assisté à des
Le
charivari?
kayawari, non.
Comment vous disiez
Les
l'instrument?
kayawari.
Kayawari.
Les kayawari. Oui, oh ben, les kayawari, il y avait surtout la vaisselle qui tenait
Les instruments.
les lieux d'instruments. Hein, on tapait sur les casseroles, on tapait sur les couvercles
Mais à l'Ouragan, vous n'en
de
avez pas
marmite
eu.
et les
Vous n'avez pas
casseroles.
assisté à un charivari
Non, j'ai
ou.
jamais assisté à un charivari, je le regrette. Enfin, je savais qu'ils avaient aussi les grosses crécelles qui étaient dans le cou.
Puis l'instrument, la ficelle, qui faisait vraiment miaou, là.
Eh
Vraiment
oui,
miaou,
le brave
miaou,
bien, oui.
super. Ou la
Non,
dourne.
ça je n'ai pas vu.
Vous n'avez pas eu des récits de ça,
Non.
à l'Ouragan?
Bon, bah, écoute, effectivement, je ne m'y suis pas intéressé
Oui,
tellement.
non, bien sûr, non.
Oui.
Alors après, vous avez après le Lauragais, où c'est que vous êtes allé?
Ah ben après le reggae, j'ai été nommé à
À
Toulouse.
Toulouse.
En fait, c'est-à-dire, j'ai d'abord été militaire, et puis j'ai été à Auroville, mais là, je n'ai pas
À
récolté
Auroville.
grand-chose, oui. Et je suis venu à Toulouse,
Pourquoi ça change
à Croix
vraiment?
Drade.
Ça
Et
change
alors?
vraiment Loserville de Auroville?
Non, c'est aussi le Lauragais, c'est à peu près les
C'est
mêmes.
la même
Oui.
mentalité quand même.
C'était la même mentalité, mais un peu différente, dans ce sens que là, j'étais directeur de l'ONU. Parce que j'avais comme élèves des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Russes et des Français. Alors évidemment, c'était difficile de
Pourquoi?
trouver, un tronc commun à tout ça.
Pourquoi ils étaient là?
Eh bien, parce qu'il y avait eu beaucoup d'immigration et là, et un peu plus loin. D'ailleurs, à Clermont-Lefort, ma collègue n'avait que des Italiens. Il y a eu une forte immigration italienne dans tout le secteur toulousain et beaucoup de villages entiers étaient occupés par les Italiennes. D'ailleurs, ils avaient prévu certains de. Ils avaient constitué leur conseil municipal, ils avaient tout fait pendant la libération, enfin, pendant la guerre, pensant qu'un jour, l'Italie arriverait jusqu'à Bordeaux, tu vois. Ils étaient déjà en conquérant chez nous, ces gens-là. Ah oui, c'est que.
C'est la première fois que j'entends ça.
Ah oui, tu ne le savais pas?
Non, 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 du tout.
Ah si, mon pauvre. Moi, j'ai eu fort à faire, je n'avais qu'une famille d'Italiennes, hein, mais. Ils étaient bien, bien emmanchés avec les Allemands, et moi qui faisais de la résistance, je ne voyais pas d'un bon oeil arriver les Allemands dans cette métairie où les Italiens les recevaient avec beaucoup de gentillesse, parce qu'ils s'imaginaient effectivement qu'un jour, c'est eux qui tiendraient là-dessus du panier.
C'est-à-dire que l'Italie annexerait la France du Sud.
Oui, et puis l'Allemagne, le reste.
L'Allemagne le reste. Là,
On
c'est
était
original.
bien partagé là.
C'est original, oui. Comme truc. Alors vous êtes à venir à Toulouse à Croix-de-Rouen.
Ah oui, je suis venu à Croix Droite. Bon, entre-temps, j'avais assisté avec le Ramelet Mundi, dont je faisais toujours partie, parce que j'avais créé, oui, le groupe des Danzigers et la Userville pendant toute la guerre, là, et qui marchait un petit peu en parallèle avec le Ramelet Mundi. Et le Ramelet Mundi, bon, aussitôt après la guerre, il y a eu des congrès de la Fédération nationale des groupes folkloriques de France, et à Strasbourg, on a beaucoup parlé de folklore, du folklore à l'école. Moi, ça m'allait bien, ça. Et c'est là, j'étais encore à Croix-de-Rade. Croix-de-Rade, qui était un grand village, il y a 47, 40, oui, 46, 47, 47, et où on se sentait vraiment bien à la campagne, là, et où tout le monde parlait encore patois dans le secteur. Et les gosses que j'avais, bon, étaient très intéressés. Moi, j'ai dit, puisqu'on parle de folklore à l'école, ça marche bien. J'ai mis un pipeau entre les mains de tous mes gosses qui ont accroché immédiatement. Je leur ai appris.
Les pipeaux, comment vous les trouviez?
Oh, les pipeaux, mon pauvre, ils sont comme celui que je t'ai appris un jour à l'école. C'est-à-dire, c'était des pipeaux en matière, non pas en matière plastique, ils étaient en cellule à l'époque, tu vois. Ce qui me permettait de dire, en pensant à Rostand, avant d'être d'ébène, elle fut de roseau, et maintenant elle est en cellule. Et
Je me
alors?
souviens, je me souviens, je vais vous interrompre. Je me souviens que vous étiez, quand j'étais à Michelet avec vous, vous étiez le grand théoricien de la lutte plume stylo à bille.
Ah oui, mais ça, j'ai été un des.
Ça m'a toujours,
Ah oui.
marqué, ça.
Ah
Quand je
oui.
pense à la lutte plume stylo à bille, je pense à M.
Eh
Perrault.
bien, tu vois, si tu me fais penser à une chose. Je vais te dire pourquoi j'ai été pour le stylo à billes et pourquoi finalement le stylo à billes est relié au pipeau. J'avais un élève qui était brouillon. S'il en était. Il avait un cahier toujours dégoûtant avec ses plumes et cette encre, il avait des taches partout. Et les stylos à billes venaient de faire leur apparition. Et alors, je ne savais pas comment le prendre. Alors, il se trouve que je lui ai appris à la fois à jouer le pipeau et que je lui ai donné un stylo à billes pour essayer de voir s'il était moins cochon avec le stylo à billes qu'avec l'encre.
Ça marche.
À partir du jour où il a su mettre six trous sur ses six doigts sur six trous sur le pipeau, et où il a eu le stylo à billes, alors je ne sais pas si c'est l'un ou si c'est l'autre, ça lui a complètement changé sa façon d'être. Il est devenu un élève appliqué. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que tout de même, il était plus agréable pour moi de corriger des cahiers qui étaient bien tenus que des cahiers, qui étaient bourrés d'encre, de taches, etc. Et c'est pour ça que j'ai été un des premiers à lutter pour l'introduction du stylo bille à l'école.
Une grande lutte progressiste.
Je ne
sais pas, souviens.
Oui, alors que j'étais peut-être taxé de passéiste pour mes idées de folkloriste, là, j'ai été vraiment...
Moderniste.
Ah oui. Et puis j'ai tenu le coup envers et contre tout. L'inspecteur que j'avais à l'époque, on dit, vous savez, il vaudrait peut-être mieux. Enfin bref, toujours est-il que j'avais raison, puisque deux ou trois ans après, c'était généralisé. Bien sûr, l'écriture a perdu de ses plaies, de ses déliés. C'est dommage, c'est regrettable, je le regrette encore, mais entre ça et avoir des gribouillages permanents, c'était quand même beaucoup plus agréable. Oui, alors, donc, j'ai commencé à apprendre le pipeau. Et quand j'ai vu que les gosses apprenaient si bien, que ça marchait si bien, un jour, j'ai été appelé à les faire jouer dans une émission qu'est-ce qu'on a d'ailleurs. Alors, j'ai amené mes 17 élèves, là, ça a très bien marché, ça fait boule de neige, et c'est comme ça que Ismaël Girard, qui dirigeait l'émission à l'époque, me les a appelés les cadettos et la flûte. Et c'est devenu, le groupe est devenu le groupe des cadettos et la flûte, auquel ensuite j'ai adjoint des petites filles. Encore une histoire de progressiste ou Françoise Adag, à qui j'ai eu le plaisir de faire faire ses premiers pas de danse aussi, ainsi qu'à Hubert Cougette d'ailleurs. Maintenant, elle voit ses robes, ses jupes violettes, elle se met dans une... Elle et sa mère lèvent les bras au ciel, parce qu'elle dit, jamais ça n'a été tout bien. Alors moi, j'ai dit, mea culpa, mais j'ai dit, moi, j'ai créé un groupe d'enfants, un groupe folklorique d'enfants, un groupe, disons, d'expression folklorique, parce que je ne voulais pas que mes petites filles singent tout à fait et soient habillées avec les habits des grand-mères. Alors, en gardant le chapeau, en mettant une jupe violette, ce petit carton de violette de la coopérative qu'elle portait à leurs bras, et elle symbolisait, pour moi, la ville de Toulouse. Bon, il ne s'agissait pas de les habiller en petite vieille, il ne s'agissait pas de reconstituer le costume d'enfant de l'époque, il s'agissait de faire un groupe d'expression folklorique qui, gardant les constantes du costume, la constante était pour moi le chapeau, et puis les violettes étaient le symbole, et voilà comment j'ai habillé mes cadettes avec des jupes violettes. Je n'ai jamais demandé au groupe adulte de me singer. Hein, les groupes adultes savaient ce qu'ils avaient à faire, et ils n'étaient pas obligés d'adopter cette jupe violette qui, effectivement, était une pure invention de mon esprit, reprise ensuite par les fabricants de poupées qui ont trouvé ça très bien, et cette poupée violette de Toulouse, bon, on en a envahi tous les marchés de France et de Navarre. Je regrette, je pensais
pas... Vous avez été critiqué quand même là-dessus.
Ah, mais bien sûr que j'ai été critiqué, mais j'accepte les critiques, puisque je sais très bien que quand j'ai fait cette chose-là, je n'ai pas voulu faire d'un groupe d'enfants un groupe d'adultes. Ah oui. Il fallait que ce groupe d'enfants qui symbolise Toulouse soit quelque chose de différent, justement, des groupes d'adultes.
Oui, c'est une bonne idée.
Hein? Bon, alors, je m'en suis défendu et je continue à m'en défendre. Je continuerai à faire des recherches sur le costume toulousain avec mes amis. Et je sais très bien que ce costume n'en avait rien d'un costume authentiquement toulousain, puisque je l'avais voulu comme ça. Oui, il est évident que les femmes n'ont jamais eu d'établier avec des violettes peintes dessus. Encore que... il se peut qu'il y en ait eu, parce que dans les tabliers bretons, j'ai encore des tabliers que ma mère portait, des tabliers de l'Orientaise, ou les peintres, puisqu'il y avait des tabliers peints sur soie ou peints sur crêpe de Chine ou sur velours, peignaient les fleurs les plus différentes, alors pourquoi pas des violettes. Oui. Alors voilà, j'ai créé ce groupe des cadettes et la flûte, et qui, mon Dieu, a marché pendant 20 ans, et marcherait peut-être encore si je n'avais pas été appelé ensuite à m'occuper d'élèves plus grands, avec lesquels nous avons fait le tour d'Europe.
C'est arrivé jusqu'en 67.
Et ça marchait de 47 à 67, oui, à peu près. 20 ans. 20 ans d'existence, mais 20 ans d'existence bien rempli, hein, avec, sur Toulouse, dans la région, en France et ailleurs, de nombreux déplacements, puisque on a été jusqu'à Berlin, on a fait le tour de l'Angleterre, du Benelux, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, enfin, vraiment un groupe qui a porté bien loin la couleur des violettes,
de Toulouse,
ouais. La couleur, l'odeur et le goût d'ailleurs, parce que nous portions dans nos bagages des parfums, souvent du parfum de Toulouse,
ouais.
Et des bonbons.
Des bonbons dans la violette,
oui. La violette. Ce qui est d'ailleurs malheureux actuellement, moi, qui ensuite suis devenu secrétaire général du comité de propagande en faveur de la violette de Toulouse, et je suis obligé de dire aujourd'hui que ce comité va mourir de sa belle mort, faute de violette.
Ouais, paraît que c'est fini.
Ah, oh, tu parles, il y avait 120 producteurs de violette, il en reste 3. La coopérative va arrêter cette année, à la fin de l'année, je pense. Monsieur Esquirol va prendre sa retraite. Et il restera bien encore quelques violettes à Toulouse, mais enfin, je te dis, 2 ou 3 producteurs sur l'ensemble qu'il y avait autrefois. C'est dire que si rien n'est fait, et on ne le voit pas d'ailleurs, c'est que au sein de ce comité, nous avons cherché quand même à étudier avec l'école d'agronomie, avec la chambre d'agriculture, ce qui pourrait être fait. Parce que pour ce qui est des violettes, la grosse difficulté, bien sûr, c'est que ça demande une grosse main-d'œuvre. Et une main-d'œuvre est de façon culturelle toute l'année. Ce n'est pas quelque chose qu'on sème aujourd'hui pour récolter un jour et puis c'est terminé, tu comprends ? Il faut les travailler toute l'année, il faut en prendre soin toute l'année. Et quand commence la cueillette au mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours qu'il faut aller ramasser. Et puis on ne peut pas les ramasser à la faucille, tu vois ? Il faut les ramasser une à une, c'est petit, faire des bouquets. Ça prend du temps pour faire ces fameux bouquets de 120 grammes là, que l'on voit dans le commerce. Et alors ça allait bien quand dans les familles, il y avait 2 ou 3 générations qui étaient là, les ménines, le soir, à la veillée, faisaient les bouquets ou même les ramassaient, tandis que maintenant, produire et produire d'une façon rentable, c'est ce qui compte. Alors les violettes, c'est plus rentable. Donc les violettes vont disparaître de Toulouse. C'est dommage parce que c'était un joli symbole auquel personnellement j'étais très attaché. Oui, alors tout ça, c'était pour en revenir à nos costumes.
À nos costumes de Cadetoune.
De la flûte. De la flûte. Et alors, oui, donc, tout en faisant partie du Ramelin de Mondi, j'ai continué à m'occuper, je me suis occupé de ces Cadetoune et de la flûte. Puis alors, le Ramelin de Mondi, auquel était venu un jour danser Françoise Dague, je me rappelle d'ailleurs le jour où sa maman est venue me trouver pour dire « Est-ce que ma fille peut venir chez vous ?» C'était une manifestation qui avait été organisée par l'Association des ingénieurs de Toulouse. Là. Et alors elle est venue faire ses premiers pas au Ramelet, et ainsi qu'Hubert Couget. Et puis un jour, alors ils se sont fâchés, tout rouge, avec monsieur Dasque, qui avait donné une gifle à Françoise Dague. Alors la moitié du groupe ayant pris parti pour Françoise, ont quitté le groupe et sont devenus Terra Mondino. Bien, là-dessus, il y avait à Toulouse l'Association des cheminots toulousains, dont M. Furon était le président, et il se trouve que moi, j'étais fils de cheminot. Alors, un jour, il est venu me dire, écoutez, M. Perron, il y a longtemps qu'à Paris, on me demande de faire un groupe à Toulouse. Vous ne pourriez pas venir me faire démarrer un groupe folklorique des cheminots qui ne porterait pas ombrage aux autres, puisque les cheminots, nous avons nos débouchés spéciaux. Bon, mon Dieu, je dis, pourquoi pas? Si on veut qu'un jour le folklore renaisse, plus on sera nombreux et mieux ça vaudra. Et alors, j'ai donc aidé à la constitution du groupe folklorique Le Soleil d'Or.
Ah, ouais.
Voilà comment je suis le papa du Soleil d'Or aussi. Et puis Le Soleil d'Or, un jour, il y a eu une grande dispute, je ne sais plus à quel sujet. La moitié a quitté le groupe et a reformé un autre groupe qui s'appelait le Poutou de Toulouse. Et puis, D'autres sont partis de Ramelette pour fabriquer le groupe, le ballet occitan, le quadrille occitan.
La Cocagne, non?
La Cocagne, alors la Cocagne, c'est une de mes anciennes cadetounes, j'appelais, qui, avec son mari, ont créé le groupe de la Cocagne. Puis alors maintenant, j'ai vu qu'il y avait un groupe de cheminots qui s'était créé à Saint-Alban aussi. Ce qui fait que, si tu veux, en bon breton, je me sens un peu le père de tous ces groupes folkloriques occitans toulousains qui ont essaimé. Mais je trouve que c'est très bien d'ailleurs, parce que le fait d'avoir maintenu, le fait d'avoir, de s'être démultiplié, même si le travail qu'on a fait n'était pas un travail d'ethnologue toujours parfait, puisque c'était quand même, il faut bien le dire, un petit peu axé sur le spectacle, on a quand même réussi à maintenir, on a fait des recherches. Au fur et à mesure que les groupes se démultipliaient, ils se lançaient dans des recherches plus approfondies sur le costume, sur certaines danses, etc. etc. Donc, cette démultiplication des groupes a été favorable à tout le monde. Et je pense que, finalement, on lui doit la naissance des bandes occitans.
Oui, certainement.
Qui sont nés donc, du fait que Françoise Daga a quitté Terremondine et s'est lancée dans la nature pour créer les ballets occitans, partant d'une idée dont nous avions d'ailleurs parlé ensemble, à savoir que quand on voyait les groupes russes ou ces groupes venant de l'autre côté du rideau de fer, là, qu'on nous montrait comme des trucs extraordinaires, nous disions toujours que nous avions, nous, dans le folklore français, des thèmes musicaux, des costumes, des instruments, des danses qui valaient tous les jours, les choses à l'exportation. Seulement, comme nous, on ne savait pas les mettre en valeur, on ne les mettait pas en valeur en France, les bons Français badaient et s'extasiaient devant ceux qui venaient d'ailleurs. Il faut dire que pendant toute une époque, les gens qui nous occupions de folklore, nous passions pour des pauvres demeurés, des pauvres types qui marchaient sur la tête. On n'avait pas idée d'aller s'occuper de trucs folkloriques alors que on allait de l'avant, alors que le progrès nous poussait vers des lieux et des cimes enchanteresses. Oui, les cimes enchanteresses, je vois que les jeunes en reviennent maintenant et qu'ils ne demandent qu'à se ressourcer, même s'ils font du rock. Et si, enfin, avoir été pris par les médias qui ne leur dispensent finalement que la musique anglo-américaine, ils sentent que ça ne correspond pas à leur rythme physiologique normal, ils sentent que ça ne leur part pas des tripes comme il faut, et il est normal qu'ils aient un besoin de se ressourcer. Je pense que la régionalisation qui est en marche devrait encore aider davantage les jeunes à prendre conscience de leurs origines, enfin, si tant est qu'avec tous les déplacements de population qu'il y a aussi, il reste encore quelque chose de bien ferme, parce que là, il est évident que tous les déplacements de population, surtout dans Toulouse, enfin je me place sur le plan toulousain, il est difficile actuellement de trouver des Toulousains de Toulouse, il est difficile de trouver des Toulousains qui parlent encore le toulousain, et quand je pense que sur la place de Saint-Cernin, où j'avais beaucoup de plaisir à aller le dimanche matin, parce que justement il y avait encore ce je ne sais quoi d'intéressant, on entendait encore parler le toulousain avec toute sa verve méridionale. Maintenant c'est pire que la place Gemma et Fina. Qui nous réveille?
C'est lourd, non?
4 heures, oui. Bon.
Finissons alors. Finissons si vous avez.
Eh bien alors on finit sur une note d'espoir, comme je dis. Je pense que tout le travail que nous avons fait depuis 40 ans et d'autres avant moi n'a pas été un travail inutile. Je pense que les jeunes prendront de plus en plus conscience de ce qu'ils ont des sources et de ce qu'on se sent bien sur la terre, que quand on a les pieds bien posés sur la terre avec des racines qui descendent profondément dans le sol. Et que c'est à partir de là qu'on pourra recréer une vie nouvelle avec la conscience qu'on appartient vraiment à un pays qui est le nôtre, et que mon Dieu, ainsi on saura se différencier de cette monotonie générale qu'on est en train de vouloir nous imposer. Cette uniformité, qu'est-ce que tu veux. C'est bien beau, les gens en jean à longueur de journée, mais c'était quand même plus beau quand ils avaient des costumes qui étaient de jolis costumes qui pouvaient les différencier les uns des autres. D'ailleurs, c'est fini.
Non, allez-y.
D'ailleurs, je suis allé en Chine l'année dernière et je préfère te dire que si Mao avait essayé de faire que tous ces Chinois soient habillés de la même façon, dès qu'ils ont pu changer de cap, ils se sont dépêchés de jeter tous ces uniformes aux orties pour retrouver des uniformes qui les différencient. J'espère qu'il en sera de même pour les Français, qu'un jour on verra de nouveau refleurir les jolis costumes des provinces de France.
Merci, M. Perron. Je voulais vous poser, juste puisqu'il reste à peine de bande, je vais la finir, juste une petite question sur les dansailles de Lozerville, là. C'était à quelle année les dansailles de Lozerville?
Ah, mais ça marchait de 42 à 45 à peu près.
Ça marchait de 42 pendant 3 ans
à peu près. Pendant 3 ans à peu près.
Et alors, après ça.
Alors là, nous avons fait danse et chant, mais aussi théâtre doc.
Ah bon?
Ah oui, là, on a pris les pièces surtout de Frédéric Cailloux, qui était un homme dont l'humour convenait très bien à l'esprit de mes jeunes paysans de Lozerville. Et je te jure que j'ai passé vraiment des moments extraordinaires de joie, de panique.